Radio Okapi.
Le succès de Radio Okapi est la combinaison de plusieurs facteurs, dont la richesse de son offre éditoriale, la qualité des programmes, le professionnalisme, son équipement et son implantation. Propos de la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, à l'occasion de ce 25 février du 20e anniversaire de la fréquence de la paix. 15 morts en 2 mois à la prison de Mambasa en Ituri, selon la nouvelle société civile du Congo. De nombreux détenus souffrent de malnutrition, faute de subventions du gouvernement. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint et chef des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, est notre invité. À l'occasion du 20e anniversaire de Radio Okapi, souhaite l'avoir continué à accompagner le processus de développement de la RDC, même après le départ de la MONUSCO. Bonjour à tous. Radio Okapi, la radio des Nations Unies, totalise aujourd'hui 20 ans d'existence. Pour la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta, le succès de Radio Okapi est la combinaison des plusieurs facteurs, dont la richesse de son offre éditoriale, la qualité des programmes, le professionnalisme, son équipement et son implantation. La chef de la MONUSCO en a profité pour remercier les auditeurs et les internautes qui suivent les programmes de Radio Okapi. On l'écoute au micro de Radio Okapi.
Plus de 24 millions par semaine et quotidiennement d'écouter Radio Okapi. Alors pourquoi vous écoutez Radio Okapi? Parce qu'il y a de la bonne musique, parce qu'il y a aussi de l'information, parce qu'il y a aussi des débats et quelquefois des débats un peu chauds. Donc, comme à vous qui écoutez, auditeurs, auditrices, bon anniversaire. Mais pour que vous ayez cette écoute sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, eh bien, c'est grâce à un maillage de 42 émetteurs FM que vous pouvez écouter, et il est important que cela puisse continuer. Mais pour que vous ayez des programmes tous les jours, il y a des équipes formidables dans 10 villes du pays, y compris, bien sûr, Kinshasa, qui travaille d'arrache-pied pour vous emmener vos programmes préférés. Et donc, bon anniversaire aux équipes de Radio Okapi. Vous faites un excellent travail d'accompagnement depuis 20 ans. On n'a pas tous les jours 20 ans, donc bon anniversaire.
Merci Madame Bintou Keïta. Une radio Okapi est une radio nationale, mais qui a su être parfaitement aussi une radio des proximités. Voilà le défi remporté par Radio Okapi ces 20 dernières années grâce à ses stations provinciales et ses différents correspondants. Propos du chef de section de la communication stratégique de la MONUSCO à Goma. Pour Amadouba, cette manière de permettre aux auditeurs de tous les coins de s'exprimer sur une grande chaîne est une richesse pour Radio Okapi. Amadouba l'a dit au micro de Rosalie Zawadi.
C'est la proximité. Elle est fondamentale pour la qualité de l'information du citoyen. Face à la globalisation que nous vivons en ce moment, il est indispensable plus que jamais de lui offrir une alternative médiatique de qualité et de proximité. Donc, Radio Okapi n'existera jamais sans l'apport vital des stations en province, notamment Goma, Bukavu, Beni, Butembo et Bunia, mais aussi les correspondants qui sont disséminés un peu partout dans le pays, à savoir Mbandaka, le Congo central, Mbujimayi, Kananga, Kalemi, Lubumbashi, partout dans le pays. De ce point de vue, Radio Okapi demeure l'une des rares stations en RDC qui permet à l'immense majorité de la population de s'exprimer, de s'informer, sur les grands, mais aussi sur les petits événements.
Rendons-nous à présent en Ituri, où 15 détenus sont déjà morts depuis les débuts de cette année à la prison centrale de Mambasa, à 165 km au sud-ouest de Bunia. Selon la nouvelle société civile du Congo, de cette entité, des nombreux détenus souffrent de malnutrition faute de subventions du gouvernement. Selon le directeur de cette prison, confirme le problème de prise en charge alimentaire des détenus malgré les initiatives locales pour réduire leur vulnérabilité. Isaac Raymond.
Les rapports de monitoring de la nouvelle société civile de Mambasa révèlent que 15 prisonniers sont déjà décédés en janvier et au mois de février en cours à la prison centrale de Mambasa, qui compte plus de 500 détenus. Son coordonnateur indique que la plupart sont des détenus préventifs qui ont déjà réalisé 10 à 16 mois sans être jugés. Il demande au gouvernement de prendre sa responsabilité en protégeant les droits des détenus. Par ailleurs, il lance un appel aux personnes de bonne volonté de venir en aide à ces détenus qui sont en détresse. Cette structure citoyenne réduit les pires que l'année dernière, où 131 prisonniers sont morts dans cette prison. Contactés des sources de cette maison pénitentiaire indiquent que ces chiffres sont exagérés. Elles ont enregistré 5 morts depuis le début de l'année, plus de 45 détenus qui souffrent de malnutrition et 18 tuberculeux. Pour les problèmes de prise en charge alimentaire, des projets de champs de manioc, de maïs, d'haricots et de légumes ont été initiés, ajoutent les mêmes sources. Cependant, la production est jusque-là faible à cause de la sécheresse. Bounia Isaac Remoyo, Radio Okapi.
À Uvira, au sud Kivu, la MONUSCO, à travers sa division de l'administration pénitentiaire, a procédé hier jeudi à la remise officielle des ouvrages du projet boulangerie, d'une unité de pêche et d'un bâtiment réhabilité devant servir de quartier pour femmes à la prison urbaine Mulungé d'Uvira. Les cérémonies officielles se sont déroulées dans l'enceinte de la prison en présence des autorités urbaines d'Uvira, de la directrice de l'administration pénitentiaire de la MONUSCO en provenance de Kinshasa, Madame Patience Sai, et du représentant de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Fiston Goma, reportage.
Les détenus de la prison centrale d'Uvira peuvent désormais manger le pain fabriqué dans leur propre boulangerie et les poissons pêchés par eux-mêmes sur les eaux du lac Tanganyika. En plus de lutter contre la malnutrition criante à la prison, ces produits sont revendus à la population en dehors de la prison. Une manière de rendre ces détenus utiles malgré leur détention. Les trois projets ont été exécutés pendant 3 mois par l'ONG locale CADI, Comité d'action pour le développement intégral, à hauteur de 30 000 dollars américains. Le maire de la ville Kizamuato a réceptionné ces ouvrages au nom de l'État congolais.
Sans vous cacher, je dirais que la prison urbaine d'Uvira est vraiment gâtée, puisque toute demande adressée à la MONUSCO, je n'ai jamais vu cette demande souffrir. Donc, nous sommes les enfants gâtés. L'enfant qui crie toujours, c'est celui-là qui tète. Et nous, d'Uvira, nous demandons trop, et nous sommes beaucoup servis comme des enfants bien-aimés de la correction Unity. Je demande à toute l'assistance d'applaudir Madame Patience et la MONUSCO.
De son côté, les représentants du ministre congolais de la Justice et garde des Sceaux, Jean-Baptiste Bokan, a salué ces trois projets qui s'ajoutent à d'autres déjà réalisés par la MONUSCO à la prison centrale Mulungé d'Uvira. D'Uvira, Fiston Goma Mayaba, la Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, une famille de 5 personnes a été décimée cette nuit dans un incendie. Il s'agit du père, un Guinéen, de sa femme congolaise et de leurs 3 garçons. Le drame a eu lieu au numéro 13 de l'avenue Zouao, au quartier Matongé, dans la commune de Kalamu. C'est vers 1h du matin que les voisins ont été alertés par les feux, dont les causes ne sont pas encore déterminées jusque-là. Un des voisins témoigne au micro d'Alain Toula.
C'était autour de 1h du matin. On tendait vers 2h. Nos voisines d'à côté ont alerté en train de frapper. Bobima, Bobima, et couper le courant en fait. Et quand nous sommes sortis, on avait vu un feu. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer comment ça s'est répandu aussi vite comme ça. C'était vraiment un feu qui brûlait déjà la maison. Toute la toiture était brûlée. La première action que nous avons entamée, c'était de couper le courant. Il y avait déjà des jeunes du quartier qui cherchaient à éteindre le feu et à casser les issues pour que les familles sortent. La chose la plus compliquée, c'était que les issues étaient vraiment dures. C'était des portes en fer. Et eux, à l'intérieur, ils ont été pris par le piège. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils aient une clé de l'intérieur pour ouvrir la porte. Avec le feu, ils ont eu cette panique-là. Ils ne pouvaient plus savoir par où chercher la clé. Et nous qui étions à l'extérieur, on ne savait pas comment accéder. Ce qu'on a pu faire, on commençait à renverser l'eau et essayer un peu de casser les murs. Avec l'intensité qu'il y avait comme feu là, ils n'ont pas pu tenir. Et quand on a pu éteindre le feu, on a trouvé des gens déjà calcinés. Papa, maman et 3 jeunes garçons.
Actualité internationale. Invasion de la Russie en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé ce vendredi la mort d'au moins 137 de ses concitoyens depuis le début de l'invasion russe hier matin. 137 héros, nos citoyens, ont perdu la vie, a-t-il indiqué dans une adresse vidéo mise en ligne sur le site de la présidence, ajoutant que 316 autres Ukrainiens avaient été blessés lors des combats.
L'invité.
Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, est l'invité de ce journal. Dans une interview exclusive accordée à Radio Okapi, il revient sur sa visite en RDC. Plusieurs points sont abordés, notamment la sécurité, les élections et l'accord cadre d'Addis Abeba. Et à l'occasion du 20e anniversaire de Radio Okapi, il souhaite voir la radio continuer à accompagner le processus de développement de la RDC, même après le départ de la MONUSCO. Arrivé mardi dernier en RDC, Jean-Pierre Lacroix a quitté Kinshasa ce matin. On l'écoute répondre aux questions de Kéline Kouté.
Monsieur le secrétaire général adjoint, bonjour.
Bonjour.
Tout au long de votre visite en RDC, la question sécuritaire vous a été posée. En Ituri et au Nord Kivu, vous êtes passé. Vous avez aussi évoqué cette question avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Comment vous évaluez la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et l'Ituri, deux provinces sous état de siège?
Eh bien, la situation sécuritaire dans ces provinces de l'Est, elle est encore très préoccupante, je crois qu'il faut le dire. Et ce qui se passe aussi, c'est que, comme vous le savez, il y a plusieurs situations dans ces provinces qui sont traditionnellement des foyers de tension, qu'il s'agisse de l'Ituri, de la zone des ADF, où les ADF opèrent, qui s'appelle le Grand Nord, le Petit Nord, le Sud Kivu. Mais en ce moment, il y a une sorte de concomitance, c'est-à-dire qu'il y a des poussées de tension un peu à peu près dans toutes ces zones en même temps. Et bien sûr, les conséquences pour les populations sont graves. Nous étions l'autre jour en Ituri, nous avons visité un site de personnes déplacées à Roé, et il y a plus de personnes déplacées dans ce site que lorsque j'y étais déjà allé il y a un peu plus d'un an. Alors, face à cela, que faisons-nous? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la coopération avec les autorités congolaises et en particulier les forces armées congolaises est vraiment excellente. Elle s'est renforcée. J'ai visité à Goma le centre de coordination qui existe maintenant entre les forces de la République démocratique du Congo et la MONUSCO. C'est un endroit où physiquement officiers MONUSCO et officiers congolais travaillent ensemble pour la planification, le renseignement, la conduite des opérations. Et parallèlement à cela, la MONUSCO a beaucoup adapté ses méthodes, ses outils. Là où je suis allé à Roé, par exemple, elle a renforcé sa présence. Les humanitaires font un travail formidable pour aider les personnes déplacées. Les forces armées congolaises renforcent également leur présence et leur mode d'action. D'ailleurs, le ministre de la Défense nous accompagnait dans cette visite à l'Est. Mais il y a encore beaucoup à faire sur le plan, bien sûr, de la réponse sécuritaire, mais aussi pour traiter, y compris dans un cadre régional, un certain nombre de sujets qui sont vraiment à la racine de cette violence.
Il y a encore beaucoup à faire. Et comment les Nations Unies entendent-elles justement aider la RDC dans ce sens-là pour pacifier le pays?
Alors, donc d'abord, il y a ce travail d'appui, de soutien, de coordination avec les FARDC qui elles-mêmes se renforcent, mais il y a encore du travail à faire. Et il y a la propre adaptation de notre outil à la fois sécuritaire avec davantage d'unités qui sont mobiles, qui peuvent réagir rapidement. Un travail aussi sur l'information, l'intelligence, comme on dit en anglais, intelligence, parce qu'il faut être plus capable d'anticiper les menaces à la population. Et par exemple, ce centre de coordination entre la MONUSCO et les FARDC à un certain nombre d'installations, y compris avec l'aide de technologies digitales, qui permettent de savoir ce qui se passe dans certaines zones où les groupes armés sont actifs. Et on le voit très directement, ça permet d'avoir plus d'efficacité. Il faut faire davantage. Et parallèlement à cela, je pense qu'il est important que les partenariats bilatéraux avec notamment les FARDC se développent. Et au-delà de ça, bien sûr, les projets importants comme le DDR, programme de désarmement, démobilisation, réintégration communautaire, stabilisation, c'est très important. Nous souhaitons vraiment que ces programmes puissent commencer concrètement. Et puis enfin, il y a les sujets, je dirais, un peu plus systémiques, On a beaucoup parlé hier au sommet de mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, de la question d'exploitation illégale des ressources naturelles, la question du phénomène du terrorisme. Ce sont des phénomènes qui sont régionaux, ils doivent être traités à l'échelle régionale. Et toute cette coopération régionale est fondamentale.
Votre visite en RDC avait entre autres pour objectif de participer au 10e sommet pour évaluer l'accord cadre d'Addis Abeba. Certains observateurs estiment qu'il y a des avancées significatives par rapport à la mise en œuvre de cet accord. D'autres, par contre, pensent que le chemin est encore long. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Lacroix ?
Je dirais que les deux ont un peu raison. C'est-à-dire qu'il y a des progrès, c'est clair, et on voit bien qu'il y a une forte dynamique du renforcement de la coopération régionale. D'ailleurs, le président Tshisekedi s'est beaucoup impliqué dans cette dynamique. D'autres pays de la région ont également amélioré leurs relations. Ça, c'est très positif. Il y a encore du chemin à faire, naturellement, parce que plus cette coopération se traduira par un renforcement de la confiance et aussi par des travaux conjoints, comme par exemple ce qui se passe en ce moment entre les FARDC et les forces ougandaises. Nous avons une bonne coordination avec ces opérations en ce moment. Plus ça se traduit par des actions concrètes sur le terrain, et pas seulement sur le plan sécuritaire, mais encore une fois aussi sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la question des ressources naturelles, la question de la lutte contre le terrorisme, etc. Plus les chances pour faire progresser la paix dans la région seront importantes. Donc nous sommes à la fois avec des progrès et en même temps du chemin à faire, mais la dimension régionale, cet effort de renforcer la confiance, le travail mutuel, la coopération entre les pays de la région, absolument fondamental.
Vous avez rencontré l'opposition politique lors de vos différentes rencontre avec la classe politique congolaise. L'opposition demande à l'ONU de tout faire pour soutenir l'intégrité du processus électoral. Quelle peut être la contribution des Nations Unies pour que la RDC organise des élections crédibles, inclusives, mais surtout dans le délai constitutionnel?
Alors, nous avons fait l'objet d'un certain nombre de demandes des autorités, en particulier de la CENI pour ce qui concerne l'appui que pourraient apporter les Nations Unies au processus électoral. Et nous sommes prêts à les examiner. Il y a d'ailleurs une équipe des Nations Unies qui se rendra dans environ un mois en République démocratique du Congo pour approfondir cette question. L'objectif que nous souhaitons poursuivre, évidemment, c'est de soutenir un processus électoral pour qu'il soit précisément équitable, inclusif, qui donne lieu à un débat démocratique et à la plus forte participation possible, y compris des femmes, bien entendu, en tant qu'électrices, en tant qu'acteurs et actrices politiques. Tout ça, c'est ce que nous souhaitons, pour, évidemment dans les délais constitutionnels, pour que ce processus puisse permettre véritablement à la population congolaise d'exprimer son souhait. Donc c'est dans cet esprit que nous sommes prêts à aider ce processus, dans la mesure, bien sûr, des demandes qui nous seront faites.
Alors, vous avez abordé cette question avec les autorités congolaises, la question des élections, des prochaines élections.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Est-ce que vous avez perçu dans vos échanges une certaine détermination de la part des autorités de pouvoir organiser ces élections dans les délais constitutionnels?
Nous avons parlé des élections et nous avons dit que nous étions prêts, évidemment, à apporter le soutien qui nous serait demandé, en tout cas que nous sommes prêts à examiner ces demandes de soutien. Et aussi, bien sûr, nous avons échangé sur ces objectifs importants. Je crois qu'il y a, d'une manière générale, le sentiment dans ce pays et chez tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés qu'il faut que ces élections se passent bien, qu'elles soient pacifiques également, mais aussi pleinement démocratique, pleinement inclusive. Et donc c'est dans ce sens que nous allons travailler que nous allons rester en contact avec tous les interlocuteurs, bien sûr les autorités, mais aussi les forces vives, la société civile qui a un rôle très important à jouer, les partis politiques de l'Union sacrée, la majorité présidentielle, aussi de l'opposition. Tout le monde doit être entendu. Tout le monde doit participer, c'est ça le sens évidemment de la démocratie et des élections libres.
Monsieur Lacroix, dernière question avant de nous séparer. Radio Capi, la radio des Nations Unies en RDC, fête ses 20 ans ce 25 février 2022. Une radio suivie sur toute l'étendue de la RDC avec plus de 24 millions d'auditeurs par semaine et plus d'un million d'abonnés sur sa page Facebook. Quel souhait pour cette radio. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette radio
J'ai envie d'abord de dire 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. Hein. Alors, je dis d'abord aux auditeurs et aussi à toute l'équipe de Radio Capi, félicitations, bravo, bon anniversaire. 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. C'est un âge plein de promesses, plein de rêves. Donc je souhaite à Radio Capi une longue vie. Je félicite d'abord les auditeurs parce que c'est grâce aux auditeurs que Radio Capi s'est construite, se construit tous les jours. Et je dis aussi un grand bravo à toutes les équipes pour ce succès impressionnant qu'est Radio Capi. Donc je lui souhaite plein succès, longue vie et encore une fois bravo.
Vous souhaitez voir Radio Capi continuer même après le départ de la MONUSCO ?
C'est ce que tout le monde souhaite, je crois. Et je crois qu'il y a du travail qui est fait en ce sens et des progrès qui sont réalisés pour que, effectivement, Radio Capi puisse continuer à travailler, quelles que soient par ailleurs les évolutions en ce qui concerne la présence des Nations Unies.
Merci beaucoup, Monsieur Lacroix.
Merci.
Merci, Monsieur Lacroix. Merci à vous aussi, Kelly Nkouté. Et cet entretien met fin à ce journal, coordonné par Noëlla Louzitou, mis en onde par Jean-Noël Mokondo et présenté par Jocelyne Moussaou. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Encore une fois, bon anniversaire à nous.